soir, l'année de tous les records pour la douane française. Record de saisie de stupéfiants, d'argent sale avec un point noir quand même, les saisies de cigarettes qui sont à la baisse. Et puis, record également puisque la douane est un important pourvoyeur de rentrée fiscale, on ne le sait pas toujours, 80 milliards d'euros. Elle est sur tous les terrains, cette douane. Hein. L'attractivité du pays, le conseil aux entreprises, le commerce extérieur. Alors la douane, outil de compétitivité pour la France. Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et sur ce plateau des décodeurs de l'écho sur BFM Business, à la télé, à la radio, le directeur général de la douane est avec nous, Rodolphe Gintz. Avec nous également Mathieu Pecheberti, qui est grand reporter à la rédaction de BFM Business, Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique, ici même à BFM Business, et puis Bruno Grandjean, président de la Fédération des industries mécaniques, à la tête de son ETI, le REDEX, qui se trouve dans le département du Loiret. On parlera justement avec lui de commerce extérieur, de contrefaçon aussi, il est directement impacté. Voilà donc le menu, le programme des décodeurs de l'écho. Alors, Rodolphe Gintz, donc le directeur général de la douane, on va démarrer. Les stupéfiants, bien sûr, c'est un petit peu le haut de l'iceberg hein, pour les douaniers. C'est la lutte contre les trafics de drogue. Plus de 9 tonnes de cocaïne interceptées en France et en haute mer, hein, plus 46%. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Il y a plus de trafic ou vous avez davantage de moyens ?
C'est toujours la question, Fabrice. Est-ce que nous sommes meilleurs ou est-ce qu'il y a plus de trafic ? Je rappelle les chiffres, vous l'avez dit, 9 tonnes, 146% de plus que l'an dernier sur la seule cocaïne. Nous avons deux explications et je pense que les deux sont vraies. Nous sommes un peu meilleurs que les années précédentes. Nous continuons toujours à nous améliorer. Nous agissons toujours au plus près des grands lieux de production et des grands lieux d'éclatement de la marchandise. Nous étions avec le ministre Gérald Darmanin il y a peu de temps aux Antilles où nous avons vu l'action de nos services. Donc nous sommes au plus près du trafic pour le stopper avant qu'il n'arrive chez nous. Et puis il y a des facteurs géopolitiques que le ministre a rappelé ce matin. La paix en Colombie,
ah bah oui, bien sûr.
La culture de la coca qui reprend, ouais. Les trafiquants qui sont sans cesse dans une course avec nous, des cultures plus fréquentes, une production probablement plus importante, peuvent aussi expliquer des meilleurs résultats que nous constatons comme nos collègues policiers.
Et puis de nouvelles routes aussi de la drogue, hein, cap vers le Pacifique, le canal de Panama, et puis à un moment ils se retrouvent dans les eaux territoriales françaises ou non loin, la Polynésie française, et on sait que la France à de nombreux territoires, dans le Pacifique, dans l'océan Indien notamment, quelque part, peu ou prou, ils peuvent tomber sur vous.
Dans l'océan Pacifique, on ne le sait pas assez, la Polynésie française, c'est une zone maritime aussi étendue que l'Europe.
Oui.
Et les trafiquants qui utilisent une nouvelle route, on le voit peut-être sur votre carte, hein, qui part de Colombie, qui utilise le canal de Panama, qui se retrouve dans le Pacifique, la Polynésie, c'est un trafic différent. Il n'est pas à destination de l'Europe, il est à destination de nos collègues et amis australiens, néo-zélandais, mais il tombe très souvent sur l'action de l'État en mer, sur des collègues de la Marine nationale, avec des douaniers. Et nous avons réalisé cette année, au tout début de cette année, des saisies très importantes, plus d'une tonne 8 de cocaïne, notamment en Nouvelle-Calédonie.
Emmanuel Lechypre.
Alors, juste sur les chiffres. D'abord, il faut rappeler que le pays du monde qui a le plus de frontières avec d'autres pays, c'est quand même la France. Hein, puisque, alors je sais plus si c'est 27 ou 28, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier avec tous nos territoires. Donc, bravo à nos douaniers, parce qu'effectivement, il faut le surveiller. Après, dans cette idée de la course entre est-ce que c'est les contrôles qui sont meilleurs ou est-ce que c'est la consommation qui et le trafic qui augmente
ouais.
On a quand même des petits ordres de grandeur. Hein, on arrive à peu près à calculer, par exemple, l'augmentation du rythme de la consommation. On sait qu'aux États-Unis, la consommation de cocaïne, alors qu'on mesure avec des indicateurs qui paraissent parfois fantaisistes, comme l'analyse des eaux usées, par exemple, hein, on sait que ça peut aller maximum aller jusqu'à 5 à 10% par an. Donc, quand vous avez une augmentation des saisies de 140% sur l'année, vous savez qu'il n'y a quand même pas une augmentation de la consommation de 140%. Donc là, c'est vrai, on peut se dire qu'il y a quand même une efficacité supplémentaire de la lutte contre les trafics, parce que quand même la consommation n'augmente pas à ces rythmes-là.
Ouais, toujours. Tiens, les consommateurs en France, il y a de plus en plus de consommateurs de cocaïne. Est-ce qu'on peut davantage facilement acheter de la drogue, un peu grâce au e-commerce. C'est ce que, voilà, je commande sur Internet, je suis livré. C'est un petit peu comme Deliveroo, comme Amazon. Mmh. Comment est-ce que vous faites face, justement, vous, les services de la douane, face à tous ces l'essor de ce e-commerce? Un e-commerce un peu particulier, nécessairement. Hein.
Alors, je précise que nous sommes spécialisés sur la marchandise. C'est ça notre grande force, une grande complémentarité avec les forces de l'ordre, nos collègues policiers et gendarmes, qui eux s'intéressent aussi au démantèlement des réseaux et aux consommateurs. Ce que nous constatons quand même, c'est que c'est très compliqué de se faire livrer des grandes quantités de stupéfiants sur le e-commerce. Ce que nous constatons.
Mais des petites quantités, ça suffit. Avant, les gens allaient acheter en bas d'une tour, en Seine-Saint-Denis ou je ne sais où, enfin peu importe. Maintenant, on se fait livrer à la maison.
C'est plus facile. Vous avez montré tout à l'heure, j'ai vu sur votre reportage, des images de nos collègues de Roissy. Il faut que ceux qui auraient la très mauvaise idée de commander des drogues sur Internet se disent bien qu'à l'arrivée, dans le fret express à Roissy et dans les autres centres de tri postaux, il y aura toujours un douanier ou une douanière qui sera là pour arrêter la marchandise.
Mais comment on fait face à l'intensification du transport, de la chaîne de logistique, justement les containers de plus en plus nombreux dans les ports et les marchandises à l'aéroport? Tout de même, c'est impossible de tout vérifier.
C'est impossible de tout vérifier. Notre rôle n'est pas de tout vérifier. Aucun douanier au monde ne va ouvrir tous les conteneurs, sinon le trafic, le commerce international
est bloqué.
S'arrête. C'est pour ça que nous avons investi depuis quelque temps sur du renseignement, à la fois du renseignement humain. Nous avons chez nous une centrale de renseignement qui fait partie du premier cercle de renseignement. Et puis nous avons aussi investi dans l'investissement technologique, dans le numérique. Je ne vais évidemment pas vous donner tous nos secrets, mais lorsqu'on ouvre un conteneur, nous avons généralement une petite idée de ce que nous allons y trouver et une probabilité un peu plus forte d'y trouver une marchandise prohibée, contrefaçon, stupéfiant, que dans un conteneur généralement quelconque.
Est-ce que vous considérez, à l'instar de beaucoup de services de police, gendarmerie, etc., que vous avez trop peu de moyens, ou au contraire, vous considérez que vous avez les moyens nécessaires, notamment technologiques?
La loi antiterroriste, après les tueries de Paris, vous ont donné davantage de moyens?
Nous avons eu des moyens supplémentaires, notamment pour le contrôle aux frontières, dans une logique totalement différente que la lutte contre la fraude, mais nous en profitons évidemment. Nous avons eu des pouvoirs supplémentaires, nous en parlerons peut-être lors de l'émission, mais nous avons chez nous une cellule de cyberdouaniers qui sont habilités juridiquement à être anonymes sur le net, à faire des coups d'achat, comme certains de nos collègues gendarmes, pour pouvoir démonter des réseaux de fraude. Donc nous avons aujourd'hui des outils juridiques, des moyens qui sont suffisant pour remplir toutes nos missions.
Mathieu Pechberti.
Oui, non, c'est un petit point pour prolonger. Il faut voir quand même que les douanes sont, comme toutes les administrations de ce pays, dans des périodes de restructuration, on dirait ça, dans les entreprises, depuis de longues périodes. Et la douane a une histoire particulière, c'est que les douaniers, entre guillemets, ont changé de métier quelque part dans leur globalité, pas particulièrement, mais depuis 25 ans, il y a le marché unique en 92 qui a fait exploser nos frontières, en tout cas qui les a baissées. Et donc les douaniers ont eu une autre mission, on parlera peut-être tout à l'heure du rôle un peu plus financier et budgétaire de la douane, mais ça c'est quand même assez important. Et les douanes n'ont cessé d'avoir des réductions d'effectifs, comme beaucoup d'administrations, mais particulièrement depuis une dizaine d'années. Enfin, vos syndicats le disent, c'est leur rôle, mais il faut quand même...
17 000 fonctionnaires actuellement dans la douane.
Voilà, alors vous me dire combien, c'était il y a une dizaine d'années, mais en tout cas les effectifs ont évidemment beaucoup fondu, donc encore une fois, c'est des priorités qui sont données ou pas par le gouvernement.
On parlait du net, les crypto-monnaies, est-ce qu'elles sont vos ennemis? Est-ce que votre tâche, elle est rendue difficile par les moyens de paiement, style Bitcoin?
Elle est rendue difficile, mais nous avons aussi investi. Je parlais tout à l'heure de notre équipe de cyberdouaniers qui sait concrètement comment ces monnaies sont utilisées, qui sait concrètement comment nous pouvons utiliser nous-mêmes ce type d'informations pour déjouer les trafics sur le net. Donc nous avons investi, et je reviens sur ce qui a été dit, c'est très exact. En 1993, nous étions 22 000. Nous sommes aujourd'hui beaucoup moins nombreux. Nos frontières sont différentes. Elles sont dans le Pacifique, elles sont dans les Outre-mer. Elles sont aussi dans les aéroports et dans les ports. Elles sont dans le numérique. C'est des nouvelles frontières. Donc nous avons constamment à adapter notre service public. Le terme de restructuration est plutôt utilisé dans le privé, mais le service public doit s'adapter à la fraude, doit s'adapter aux évolutions, y compris aux évolutions technologiques. Et nous investissons. Le ministre l'a rappelé ce matin. En 2018, nous avons des effectifs supplémentaires pour faire face à ces nouvelles menaces et pour faire face aussi, nous en parlerons tout à l'heure, au fait que nous allons créer dans quelque temps une nouvelle frontière avec nos amis du Royaume-Uni qui bientôt quitteront l'Europe.
Tout juste. Emmanuel Chip, juste un mot, alors ça, peut-être qu'on comprenne pas mal ce que je vais dire, bien sûr, mais quand on regarde ce qui se passe dans certains pays européens, les Pays-Bas, le Portugal, la Grèce, quand on voit ce qui se passe en Amérique du Nord, en Californie, bientôt au Québec, où on légalise la production, la consommation de stupéfiants. On voit l'économie du cannabis qui connaît un boom aux États-Unis. On voit certains distributeurs qui sont cotés en bourse. On voit des investisseurs qui se manifestent. Est-ce que c'est une piste à suivre? Est-ce que c'est vecteur de stabilité, de moins de délinquance? Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Le Chypre?
C'est vrai que aujourd'hui, c'est une question de mise en pratique plus qu'une question de théorie. C'est vrai que la réflexion aujourd'hui, elle est quand même assez avancée et assez bien documentée sur le fait de légaliser certains trafics. Alors, il faut être très clair sur le périmètre,
bien sûr,
de ce qu'on libéralise.
On appelle l'usage récréatif, entre guillemets.
L'usage récréatif, très clairement, ça ne concerne que le cannabis et il n'est jamais nulle part question de légaliser d'autres stupéfiants.
On parlait de cocaïne.
C'est quand même, sur le plan économique, c'est quand même un cas qui est passionnant. Alors, il y a des économistes qui travaillent beaucoup sur le sujet. Hein. Vous avez une économiste à Toulouse qui s'appelle Emmanuel Auriol, qui est une des spécialistes mondiales du sujet, qui a étudié la question et qui montre à quel point, si vous voulez, l'efficacité de la mesure de légalisation dépend de la pratique des prix que vous réussissez à mettre en place. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est au moment où vous ouvrez le marché officiellement, entre guillemets, c'est de pratiquer un prix qui soit plus élevé que le prix des trafiquants, mais qui soit pas trop élevé non plus. Il faut que ce soit plus élevé que le prix des trafiquants, parce que vous avez en contrepartie de la légalisation un certain nombre d'avantages. La qualité de la marchandise que vous achetez, vous n'êtes pas un délinquant, les conditions sanitaires, etc. Et après, au fil du temps, il faut augmenter petit à petit le prix, parce qu'évidemment, lui, le trafiquant, il a la capacité quand même, comme ses coûts sont très faibles, de baisser ses prix.
Faire baisser.
Et donc, on voit que globalement, ça marche. Hein, on voit que quand vous réussissez à mettre en place une bonne politique de prix, vous réussissez à légaliser, vous réussissez à faire des recettes fiscales assez spectaculaires.
Voire à contribuer au PIB de la France.
Vous contribuez au PIB et vous avez même un État, par exemple, alors, allez, je crois que je ne sais plus si c'est le Colorado, où vous avez voté dans la loi locale un plafond maximal de recettes fiscales. Il a été dépassé, donc on a restitué des sous aux citoyens du Colorado.
Dingue.
Tout le business que vous citez, ça n'est qu'une officialisation du business. Hein, donc c'est de l'argent qui rentre dans les circuits publics. Et aux États-Unis, l'étude qui a été faite auprès des jeunes pour voir si la légalisation avait augmenté ou pas la consommation chez les jeunes, eh bien, les études faites au niveau fédéral montrent que la consommation a plutôt baissé.
C'est bien le Colorado. Mathieu Pechberti.
Non, mais c'est exactement ce que dit Emmanuel Leschip. Il y a quelques années, je crois que c'est en 2013, au moment où les Verts étaient au gouvernement, Cécile Duflot avait mis sur la table cette légalisation du cannabis. Et un institut dont j'ai oublié le nom avait fait une étude sur les recettes potentielles de l'État, parce que tout l'intérêt de légaliser des trafics, c'est évidemment d'imposer dessus une taxe très forte, pour qu'évidemment l'État en profite, et les projections, sans être très précises, étaient évidemment de plusieurs milliards d'euros. Donc ça avait bien fait réfléchir certains services de l'État, clairement.
Bon, je vous demande pas, Rodolphe Legine, s'il faut légaliser ou pas le cannabis. Je pense que la réponse, on la connaît pour l'instant.
Moi, j'applique la loi telle que.
Voilà, vous appliquez la loi.
Ça vous soulagerait quand même un peu aussi.
Je ne suis même pas certain de ça. C'est un sujet de débat potentiel. En tous les cas, mes journées sont suffisamment remplies à appliquer la loi telle qu'elle est aujourd'hui, à aider les entreprises, et nous en parlerons peut-être
tout à l'heure,
à exporter et à collecter 80 milliards de taxes par an pour ne pas me poser cette question.
C'est quoi ces 80 milliards? Parce qu'en regardant justement ce rapport, ces chiffres de la douane en 2017, 80 milliards de recettes fiscales, un montant en hausse de presque 5% par rapport à 2016. Tiens, Mathieu Pechberti, vous avez regardé, c'est une surprise ou pas? Ça vient d'où?
Non, c'est absolument pas une surprise. Peu de gens le savent parce que la douane est une administration entre guillemets méconnue pour ce rôle-là de percepteur de taxes, mais la douane est l'une des administrations les plus puissantes de France, après le Trésor, qui est là entre guillemets plus connue, mais 80 milliards de taxes, 2-3 exemples qui parlent pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Il y a environ 30 milliards de taxes prélevées sur l'ensemble des produits énergétiques, donc en gros c'est l'essence, le diesel, le gaz et le fuel.
D'accord.
Ensuite, dans l'ordre, il y a environ 14 milliards d'euros de prélevés sur le tabac, ensuite 5 milliards d'euros de prélevés sur l'alcool, un petit peu moins. Et puis, fut une époque, alors là, je crois qu'il y a eu un peu de cuisine administrative, mais il y avait aussi les recettes sur les jeux, la Française des Jeux notamment, 3 milliards d'euros. Alors, je crois que c'est plus chez vous maintenant.
Ça n'a jamais été chez lui.
Autant pour moi. Comme c'est au ministère du budget, voilà, on va pas rentrer dans les détails des arcanes administratives. Mais ce sont des recettes extrêmement importantes. Encore une fois, 30 milliards d'euros sur l'ensemble des produits énergétiques que nous consommons tous, le pétrole, le gaz et le fuel, qui sont notamment des énergies polluantes, et puis l'alcool et le tabac, qui sont en plus des produits, et j'en termine, qui coûtent énormément d'argent à l'État.
Rodolphe Gintz, directeur général des douanes.
Merci pour cette présentation très complète. J'ajoute que nous collectons, c'est notre rôle historique, les droits de douane, qui sont une ressource de l'Union européenne, 2 milliards d'euros à peu près tous les ans. Et puis nous en parlerons probablement tout à l'heure, parce que c'est une mesure qui a été demandée par les industriels et les transporteurs. Nous collectons aussi la TVA à l'importation, mais depuis un an et demi, nous avons décidé de donner la possibilité aux entreprises, soit de le déclarer et de le payer sur leur déclaration en douane, soit de le déclarer et de le payer avec leur déclaration de TVA, ce qui leur fait économiser de la trésorerie et ce qui est bon pour la compétitivité.
Les carousels de TVA, c'était vous ?
Certains carousels de TVA déjoués, c'était nous.
À propos des fraudes, justement, la lutte contre la fraude en col blanc, parmi les records que vous avez annoncés ce matin avec le ministre, monsieur Darmanin, record dans tout ce qui est saisi d'avoirs criminels, plus ou moins liés soit au grand banditisme, soit au terrorisme, des voitures, des immeubles, des tableaux, des bijoux, des liasses de billets. Il y en a pour presque 900 millions d'euros. Ça a été multiplié par 6 par rapport à 2016, à mettre au crédit de votre service national des douanes judiciaires. Cette lutte, cette fraude en col blanc, est-ce qu'elle est plus vivace? Est-ce que les fraudes sont de plus en plus complexes?
Les fraudes sont de plus en plus complexes. Dans le chiffre que vous avez cité, qui est de 860 millions, il y a une ou deux affaires très importantes, notamment une dont nous avons beaucoup parlé, la fraude au quota carbone.
Juste. Bon.
Même lorsque nous mettons ça de côté, nous constatons une augmentation, une sophistication des circuits de fraude. C'est pour ça que nous avons, nous, de notre côté, également investi dans les techniques de renseignement, dans les techniques d'investigation, dans le démontage très fin des circuits financiers toujours plus complexes, parce que nous savons très bien que cette fraude est à la fois un préjudice aux finances publiques, et puis quand nous remontons toutes les filières, de temps en temps, nous tombons sur des schémas de fraude qui sont mafieux, voire carrément financement du terrorisme.
Il y a toujours du cash, beaucoup de cash qui circule, malgré les restrictions, malgré la baisse du plafond de 3 000 à 1 000 euros pour payer en cash. Ça continue encore ou pas ?
Ça continue encore. Je rappelle qu'en France, il faut déclarer, lorsque vous voyagez avec plus de 10 000 euros en liquide, vous devez déclarer les fonds et la provenance de ces fonds. Et si vous n'êtes pas en capacité de le prouver, nos douaniers qui sont là aux frontières sont susceptibles de consigner ces sommes. C'est un pouvoir très important parce que notre administration a la capacité d'arrêter les flux financiers illicites. Et ça, dans les temps qui courent et dans la lutte que nous avons contre le financement du terrorisme, c'est une arme très puissante.
Mathieu Pechberti.
La question qui se pose, moi je ne l'ai pas, donc je vous la pose, mais c'est combien de contrôles sont faits aux frontières chaque année? On voit bien encore une fois que ce rôle que vous avez, et que vous faites encore forcément très bien, mais vous le faites quand même de moins en moins. Combien de contrôles aux douanes sont faits chaque année? Enfin, on voit bien quand on passe les frontières de nos pays.
Je vous donne notre rapport, Mathieu.
Non, mais
vous verrez dedans.
Tous ceux qui n'ont pas dans leur voiture, qui
le chiffre des contrôles.
Une douane aujourd'hui, on a quand même, dans la pratique, tout le monde le voit bien, très peu de contrôles.
Nous avons renforcé les contrôles aux frontières. 7 millions de passagers ont été contrôlés par la seule douane l'an passé.
Ah, je l'ai été.
Dans les petits ports, dans les petits aéroports, au titre de nos fonctions de garde-frontières. Les plus gros aéroports, c'est nos collègues de la PAF. Et nous avons, nous, refusé l'entrée sur le territoire national de 2000 personnes l'an passé.
Pour quelles raisons ?
Pour les raisons qu'ils n'étaient pas en conformité et qu'ils étaient recherchés dans des fichiers.
Bon, vous avez votre réponse, Mathieu.
Mais c'est parce qu'on n'arrête plus les honnêtes gens maintenant, c'est tout. On n'a plus besoin, on sait que c'est des honnêtes gens déjà avant.
Le tabac, on n'en a pas du tout parlé, parce que j'ai parlé de record de saisies stupéfiants, record de saisies d'argent sale. C'est Gérald Darmanin qui le disait lui-même ce matin. Il parlait d'un point noir, hein, le tabac de contrebande, dont les saisies ont reculé de 8% en 2017, 240 tonnes à peu près. Ça veut dire quoi? Il y en a trop désormais du tabac de contrebande? Vous savez plus donner de la tête? Un paquet à 8 euros quelque part? Ben, finalement, vous êtes un peu dépassé ou pas?
Alors, je rappelle que ça, c'est le chiffre de 2017. Hein. En 2017, le prix du tabac n'a pas augmenté, ou uniquement en fin d'année.
Oui, il était cher quand même.
C'est effectivement un point négatif, hein, très clair. Et le ministre nous a demandé d'intensifier nos efforts, de nous réinventer dans nos techniques de lutte contre la contrebande, d'investir, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, l'Internet et les réseaux sociaux, parce qu'on voit que c'est un facteur de distribution. Vous avez peut-être vu qu'un gros réseau lyonnais a été démantelé il y a quelques jours. 2,5 tonnes de tabac ont été saisies et la revente était faite sur les réseaux sociaux. Donc nous avons aussi investi, je vous donnerai pas tous les secrets non plus, pour faire en sorte que ceux qui vendent sur le net puissent savoir que C'est interdit en France et nous aurons une bonne chance de les retrouver.
Et alors le tabac, ça c'est l'affaire de Mathieu Pechberti qui a enquêté, je ne sais pas combien de papiers qu'il a fait dans le JDD, ici même sur BFM Business, et puis un livre que vous aviez sorti. Allez-y, Mathieu Pechberti.
Non, mais est-ce que, on parlait
de point noir ou pas
tout, oui, ça reste un point noir.
On peut pas couvrir tout le monde.
Si, en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que on ne peut pas demander à la douane de tout faire. Elle ne peut pas tout faire. On parlait tout à l'heure des saisies de drogue dures, hein, pour distinguer des autres, on va dire. Effectivement, sur les aspects commerce maritime notamment, vous parlez des aéroports et c'est effectivement, vous êtes très présent. Moi, je parlais un peu plus des contrôles quand je critiquais le manque de contrôle. Pour attraper les petits poissons, par définition, la douane se concentre sur les gros et c'est normal. Il faut faire du volume, entre guillemets, mais les petits poissons passent. Et les filets, quand vous prenez votre voiture, si vous pouvez ramener des paquets de cigarettes à foison en venant d'Espagne, de Belgique, et ça, voilà. Et ça, c'est important. Et évidemment, Internet. Effectivement, le commerce par Internet de cigarettes est interdit, mais il y en a comme jamais. Enfin, vous tapez ces quelques mots sur Google et puis vous trouvez comment s'organiser. Ça passe par des colis. Qui va savoir, qui contrôle les colis de la poste pour savoir si dedans il y a une paire de chaussures, une cartouche de cigarettes. Enfin, voilà. Donc le commerce sur Internet aujourd'hui, personne ne sait le chiffrer. Les buralistes estiment. Je sais pas, que c'est quelques pourcents du marché, mais en fait, on n'en sait rien. Mais il est évident que les chiffres qui ressortent de ces saisies de cigarettes, s'ils sont en baisse, qu'il faut peut-être... Enfin, je sais que la question se pose, mais que les canaux de distribution ont changé. Et évidemment, Internet, on ne peut pas passer nos journées, nous, médias, à parler de e-commerce pour tous les produits qui existent dans le monde et savoir que, évidemment, le tabac là-dessus passe par Internet. Voilà. Et puis, en dehors de ça, aujourd'hui, avec le paquet qui est en train de monter à 8 euros, enfin, qui vient de monter à 8 euros, les gens s'organisent. Enfin, on voit bien que les frontaliers s'organisent aussi. On sait très bien que quand vous habitez à Toulouse, à Pau, dans le sud-ouest, il y a quasiment des tours opérateurs qui ne disent pas leur nom, mais qui s'organisent et qui vous font le trajet pour aller à Andorre, en Espagne, dans la journée, pour amener et du tabac et d'ailleurs de l'alcool. C'est la même chose en Belgique. Il y a des camions qui traversent le pays et qui, à certaines intersections, on va dire connues d'autoroute sur la France, sur les aires d'autoroute, s'arrêtent et puis ils larguent quelques cartouches qu'ils ont achetées. Enfin, ça, c'est organisé. Enfin, vous voyez, sur certains réseaux, sur certains sites internet, c'est entre guillemets très bien commenté. C'est même si c'est interdit. Donc voilà, c'est quand même une réalité. C'est interdit, mais contrôler Internet, voilà, bon courage. Il faut avoir plus de moyens, beaucoup plus de moyens.
Non, mais alors, sachant qu'en plus, quand on voit
Emmanuel, et ensuite
il y a un moment où quand vous regardez ce que la contrebande entre guillemets, c'est-à-dire ce qui n'est pas acheté chez un buraliste, représente dans la consommation. Et c'est un paquet sur 5, c'est ça
Alors non, si c'est la vraie contrebande,
c'est
5% du marché. Il y a un peu une rhétorique, voilà. Les buralistes nous racontent un peu, enfin là-dessus, mettent des mots qui ne sont pas vrais, mais le 1 sur 4, le 1 paquet sur 4, c'est les paquets achetés en chez nos frontaliers, Belgique,
oui,
Espagne.
D'accord.
C'est pas interdit, voilà. C'est limité. Mais c'est important, parce qu'on parle de contrebande et on met un peu de tout dans la contrebande.
Ouais.
La contrebande et la contrefaçon,
oui, mais
c'est 5% du marché.
Sauf que Mathieu, ces paquets qu'on trouve sur Internet, etc., c'est pas des fausses cigarettes.
C'est pour ça que
dans ce combat-là, on peut pas tellement compter, par exemple, sur les fabricants de cigarettes, parce que finalement, qu'il arrive, c'est des cigarettes qui vendent.
Ils les vendent
dans d'autres pays, etc. Donc c'est quand même
le premier perdant là-dessus.
C'est quand même l'État seul contre tous, là.
Les fabricants de cigarettes jouent vraiment le jeu ou jouent parfois un jeu ambigu, clairement. Rodolphe Jeans, vous le patron de la douane.
Moi, sur ces sujets, d'abord, je tiens à dire que tout ce qui vous a été dit est probablement exact, mais c'est pas des conseils à suivre.
Je ne donne aucun conseil, je suis juste un observateur.
Que je peux vous donner, suite aux indications et aux consignes très claires données ce matin par le ministre, c'est de surtout pas essayer d'acheter le tabac comme ça.
Et qu'est-ce qu'on risque?
Pourquoi? Vous risquez la saisie, y compris si vous faites un trafic, vous risquez la saisie du véhicule qui organise le trafic et vous risquez une amende. Je rappelle que si vous agissez en bande organisée, les peines ont été récemment alourdies, jusqu'à 10 fois la valeur de la marchandise, 10 années de prison. Mais au-delà de ça, ce que je voulais vous dire, c'est que le ministre nous a donné des consignes très fermes de réinvestir tous ces lieux, y compris l'Internet. Et donc, dès ce week-end, nous serons avec le ministre en Andorre pour vérifier des nouveaux dispositifs, pour faire en sorte que ceux qui auraient la mauvaise idée de faire du tourisme fiscal en Andorre, sur l'Internet, en Belgique, au Luxembourg, etc., se disent bien qu'ils auront une probabilité plus forte de tomber sur une douanière ou sur un douanier
qui
leur rappellera, ou sur le ministre, ou sur votre serviteur qui leur rappellera.
Et par rapport à tous vos concurrents douaniers allemands, italiens, anglais, etc., vous considérez que vous êtes plutôt en avance, plutôt aussi bon qu'eux ou plutôt en retard ?
Moi, je parle pas de concurrents. Hein. Je vous rappelle que
à vos confrères,
partenaires et amis,
tout ce que nous faisons d'un point de vue douanier.
Ah, mais vous regardez bien les méthodes des uns des autres.
De texte et européen, tout ça, donc il y a une très très bonne collaboration et du très bon échange d'informations, de renseignements, d'expertise. Donc nous collaborons avec eux.
Alors Mathieu Pecheberti, un mot, Bruno Grandjean, puis on reviendra avec Bruno tout à l'heure sur le commerce extérieur.
Sur un peu de mon domaine de compétence, mais si ce commerce, si ce trafic existe, c'est parce qu'il y a une divergence fiscale. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que dans la zone euro, on doit avoir une convergence de la politique fiscale, sinon on génère des trafics. Et je pense que même en faisant des contrôles, s'il y a des différentiels de prix trop importants, il restera toujours un certain trafic et on n'arrivera pas à l'annihiler. Donc je crois qu'il y a un vrai problème de convergence des politiques de santé publique.
Bien vu Bruno Grandjean. Mathieu Pecheberti, un mot, puis on se retrouve dans un instant.
Les cigarettiers, Marlboro, Camel, etc., c'est du pain béni pour eux. Ils jouent sur les distorsions fiscales. Ils disent en France, c'est trop cher, faut baisser. Ils vont à Bruxelles et ils disent l'inverse. Et puis, au final, un paquet de Marlboro, comme disait Emmanuel Le Chypre, un paquet de Marlboro acheté en Belgique ou en France, c'est toujours autant d'argent pour Marlboro.
Alors. Pour eux, c'est pareil, parce que c'est la fiscalité qui fait les
différences. Et ça, c'est vrai que l'État, enfin, en France, l'État français souffre beaucoup de ça, mais c'est un choix souverain de l'État français, à lui de changer ou non.
Bon, on se retrouve dans un instant, toujours avec le directeur général de la douane en France, Rodolphe Gintz, Mathieu Pecheberti, Emmanuel Le Chypre, Bruno Grandjean. On parlera de contrefaçon, on parlera de nouvelles frontières. Puis on verra d'ailleurs comment la douane française se prépare à la guerre commerciale avec Trump. Pas tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, gros plan sur la douane française. Ce soir, on est avec le directeur général de la douane, Rodolphe Gintz, toujours avec Mathieu Pecheberti, Emmanuel Le Chypre, et puis Bruno Grandjean à la tête de la Fédération des industries mécaniques, dont plusieurs de vos adhérents, de vos fédérations, sont membres d'UNIFAB, ce collectif d'entreprises associé pour lutter contre la contrefaçon. La contrefaçon, c'est une plaie pour l'économie. On va en reparler dans un instant avec le patron de la douane. De quelle manière vous êtes impacté, Bruno Grandjean? C'est pour ça que vous êtes venu ce soir, notamment pour en parler.
Oui, la contrefaçon, on la retrouve dans tous les produits industriels, en fait. On parle souvent des produits de luxe, de l'horlogerie, mais en fait, vous avez des pneus contrefaits, vous avez des éléments de carrosserie, des pièces détachées, des roulements à billes, par exemple. 5 à 10% des roulements à billes sont contrefaits. Ah ouais, et c'est vraiment toute une filière.
Bruno, mais on les trouve où, ces roulements à billes contrefaits?
Ah, les roulements à billes, ils sont partout, en fait. Vous allez les retrouver dans tous les mécanismes, dans un ascenseur, dans un avion, dans une voiture.
Oui, mais on les achète où, a priori?
Et sur le marché, vous avez des roulements qui portent une marque de constructeur qui ont l'air d'être totalement des conformes bons, et qui en fait sont de totales
Mais Bruno, le chef d'entreprise, il achète consciemment des produits contrefaits parce qu'ils sont moins chers ou il se fait avoir?
Non, il se fait avoir, très clairement. C'est une volonté de tromper le consommateur final puisqu'on vient copier même les emballages. Tout est copié et c'est des filières complètes qui existent dans certains pays dont on parle souvent, un peu plutôt du côté de l'extrême-orient,
la Chine,
plutôt.
Oui. Hein,
et la route de la soie, ça sert aussi à faire venir des produits contrefaits, où c'est des véritables filières, où ils copient véritablement la marque, les normes, les documents annexes, tout ressemble à un véritable roulement, et donc avec des risques de casse, avec des risques d'accident sur des véhicules. Exactement.
Ouais.
Donc il y a une vraie filière autour de ça.
Et Rodolphe Gintz, quels sont les articles les plus contrefaits? D'où viennent les articles contrefaits? C'est vrai, il a cité la Chine. Alors c'est vrai que souvent on a dit la Chine, contrefait. Est-ce que c'est le seul pays? Je ne sais pas. C'est quoi? Ça touche tout, c'est vrai. C'est pas uniquement les sacs en cuir à Vintimille ou les faux foulards Hermès. Non,
ça touche tous les domaines. Ouais. Ce qui vient d'être dit est très juste. On pense souvent aux sacs à main, aux t-shirts ou aux polos avec un petit animal. Hein. Je ne fais pas de publicité pour une marque. Et en réalité, c'est bien souvent des biens de production, de consommation courante. Ça touche l'industrie, ça touche les pièces détachées, ça touche les médicaments avec des risques très dangereux pour la santé, ça touche les jouets, ça touche les vêtements, bref, y compris les produits sanitaires. Nous avons de la contrefaçon, de dentifrice, de crème solaire, etc., etc.
Et là encore, on revient, pour vous parler des médicaments, c'est pas compliqué à acheter, c'est tout petit, ça tient dans un paquet poste. On revient sur ce que disait tout à l'heure Mathieu Pecheberti à propos du tabac, ou moi de la drogue, tout à l'heure. Le e-commerce, merci le e-commerce.
Et les mêmes douaniers qui sont là pour ouvrir le paquet et pour vérifier qu'il n'y a pas de tabac.
Vous n'avez pas mis le bras non plus.
Vous savez que nos douanières et nos douaniers à Roissy, par exemple, sont en permanence 24 heures sur 24 chez les grands expressistes. Je vais donner quelques marques pour que ça parle
les
plus.
DHL,
FedEx, UPS, DHL, La Poste, etc. 24 heures sur 24. Et ils sont là pour arrêter des quantités très importantes de contrefaçon de médicaments, notamment.
On sait le manque à gagner pour les industries. Alors, au-delà des risques, hein, évidemment, inhérents à la santé, à l'intégrité physique, à combien on estime le préjudice? Vous, par exemple, dans les industries mécaniques, Bruno Grandjean.
On parle de 5 à 10% des produits qui peuvent être contrefaits sur certains produits. Et avec des risques très faibles pour les contrefacteurs, finalement, on a du mal à, on peut saisir leur livraison, mais on a du mal à les toucher, à toucher l'origine. Et c'est une filière organisée. Et c'est là où il y a sans doute des relations entre États à établir et essayer de faire la chasse à ce genre de pratiques qui sont totalement déloyales. C'est un peu les pirates de la mondialisation et il faut régler le problème.
Rodolphe Gine, ça ?
C'est très juste. C'est pour ça que nous travaillons en étroite collaboration avec les industriels. Les industriels viennent former nos douaniers pour qu'ils soient plus à même de détecter les contrefaçons. Lorsque nous avons un doute, systématiquement, nous interrogeons ce qu'on appelle les titulaires de droit pour qu'ils puissent nous dire « oui, c'est un vrai » ou non, c'est un faux. Et en fonction de leurs indications, nous saisissons la marchandise et nous la détruisons.
Alors tiens, ce qui nous emmène au commerce extérieur, parce que c'est vous aussi qui, chaque mois, faites l'addition des déficits français du commerce extérieur. Malheureusement, on parle toujours de déficit avec un record en 2017, hein, verdict sans appel des douanes françaises. Je cite votre administration, la plus forte dégradation observée depuis 2011. Moins 62 milliards quand l'Allemagne fait 250 milliards en plus d'excédents, hein. Le commerce extérieur, c'est le mal français. Comment est-ce qu'il faut lire ces chiffres? Qu'est-ce qui ne va pas, à votre avis?
Alors, notre administration, sur le commerce extérieur, elle est en charge de deux choses, et de deux choses seulement. Premièrement, les chiffres, la statistique. Mais merci de ne pas tirer sur celui qui donne les résultats. Et puis, accompagner, aider les entreprises à être plus fortes à l'exportation, leur faire comprendre les règles qui, vues d'un peu loin, peuvent être compliquées, mais en réalité ont toute une explication. Et nous avons conseillé l'an dernier plus de 2600 entreprises, c'est là aussi un record, parce que nous...
Sur quel terrain vous les conseillez à quoi?
Pour mieux exporter.
Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui?
C'est des choses très concrètes. Comment tirer parti des accords d'associations économiques avec d'autres pays? Comment mieux s'enregistrer? Comment utiliser des certificats que nous leur donnons pour dire avec telle marchandise, vous pouvez être sûr que le taux de droit de douane va être à tel niveau, pour qu'ils soient complètement rassurés sur tout leur process.
Les déclarations dématérialisées.
C'est des choses très concrètes que nous faisons pour aider les entreprises à mieux maîtriser leur process d'import et d'exportation.
Pardon, je vous donne la parole, Emmanuel Chouf. Au moment où on parle d'Internet, de numérique, la dématérialisation des formalités, de quelle ampleur est-elle réalisée, cette dématérialisation? Continue à écrire sur des bouts de papier avec un stylo, ou alors maintenant tout est numérique?
Ça fait bien longtemps, figurez-vous, que je n'étais pas né alors que nos premiers programmes informatiques...
Vous avez 40 ans.
Au début des années 70, s'appelait Sophie, commençait à dématérialiser la déclaration en douane. Aujourd'hui, nous sommes à près de 90%. Et les 10% qui manquent, nous allons les gagner.
Emmanuel, la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce qu'il est plus facile?
Oui, est-ce que c'est plus simple aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans une démarche de simplification par rapport à... On voit bien que la complexité administrative, globalement, elle a été croissante sur beaucoup de sujets ces dernières années. C'est une tendance longue. Est-ce que vous avez réussi à inverser la tendance?
Nous avons réussi à inverser un peu la tendance. Et puis surtout, lorsque la tendance peut pas être inversée, parce que les règles et les normes en matière de commerce international sont décidées au niveau européen, nous aidons et nous accompagnons les entreprises pour faire en sorte que ça soit plus simple pour elles.
Mathieu Pechberti.
Non, c'est pour revenir sur ce rôle un petit peu quand même ambivalent et qui évolue de la douane depuis maintenant 10-15 ans. La douane aide les entreprises, ou en tout cas c'est la mission qui lui est donnée par les différents gouvernements, d'aider davantage les entreprises à exporter. Est-ce que c'est vraiment le rôle de la douane? Je ne sais pas. La douane à l'origine était justement là pour bloquer, entre guillemets, les importations de produits contrefaits. Et si on prend l'exemple que tout le monde connaît des produits de luxe, on voit bien que... qui est en plus l'une des rares industries françaises à être bénéficiaire en termes de commerce extérieur. Et ce qui est le plus important, d'aider les entreprises françaises du luxe, à exporter, ce qu'elles savent très bien faire en réalité, et une entreprise, c'est son job, plutôt que d'essayer de faire en sorte qu'elles vendent un petit peu plus en France par rapport aux produits que nous pouvons acheter, peut-être parfois sans le savoir, de produits contrefaits, notamment dans le luxe. Vous voyez bien que il y a quand même un truc qui cloche et qui va pas quand même dans ce.
Alors Rodolphe, comment résolvez cette contradiction pointée par Mathieu?
Je suis pas d'accord avec Mathieu. La frontière, c'est un lieu d'échange. C'est pas un lieu où on doit bloquer systématiquement.
On parle de produits contrefaits. On n'échange pas des produits contrefaits.
Notre mission, celles qui sont données par les pouvoirs publics et par notre ministre, c'est de, en gros, séparer ce qui doit être contrôlé parce qu'il y a un risque plus élevé et qui doit être absolument contrôlé. Et puis lorsqu'il n'y a pas de risque, c'est de faire en sorte que le commerce puisse se dérouler le plus facilement possible. Le ministre, ce matin, a donné le chiffre du temps moyen de dédouanement. 3 minutes 14, encore en diminution. Ça, ça veut dire que nous avons investi sur le numérique, nous avons investi sur des nouvelles méthodes, des nouvelles procédures, pour faire en sorte que l'entreprise, et l'immense majorité des entreprises, n'a rien à se reprocher, voit ses formalités douanières les plus rapides possibles, et que celles qui ont vraiment des choses à se reprocher se disent bien qu'ils risquent d'avoir un douanier ou une douanière au bout du conteneur.
Donc ce que vous voulez dire, c'est quelque part, à votre façon, vous contribuez à l'attractivité du pays. On prend l'exemple des ports, qui ont pas, ports français, qui n'ont pas toujours eu bonne réputation à cause des grèves, des infrastructures, la rapidité pas toujours au rendez-vous, les reproches, ils sont extrêmement nombreux. Le délai actuellement donc pour dédouaner des marchandises dans un port français, donc venant de l'extérieur, et pour ces entreprises Absolument. Étrangères qui veulent, qui misent sur la France, c'est combien donc ?
3 minutes 14, c'était 13 minutes il y a 10 ans.
Bien. Bruno Grandjean.
Oui, non, moi je confirme, avec les douanes, on a de très bonnes relations, qui sont plus dans le conseil que dans le contrôle.
C'est quoi l'image que vous avez de la douane, vous ?
C'est une image relativement moderne, effectivement. On a des procédures douanières assez complexes. Les accords de libre-échange sont parfois difficiles à comprendre, difficilement accessibles pour une PME, pour calculer des droits de douane, pour connaître des prix auxquels on va pouvoir rendre nos marchandises sur un marché étranger. Et là, on a du service du côté des douanes. Ça fonctionne bien. On a tendance souvent à critiquer notre pays pour des lourdeurs administratives. Mais là, il y a un domaine où ça fonctionne bien.
Deux questions pour terminer. Vous l'avez abordé furtivement tout à l'heure, cette nouvelle frontière qui va se créer. Enfin bon, il y a déjà une frontière qui existe entre la France et le Royaume-Uni. Mais elle va ressembler à quoi donc l'an prochain, en 2019 hein?
Alors, il y a une frontière aujourd'hui pour les voyageurs.
Pour les voyageurs,
parce que les Anglais
oui,
ne font pas
Schengen,
partie de l'espace Schengen. Mais l'Angleterre fait aujourd'hui, le Royaume-Uni, pardon, fait aujourd'hui partie du territoire douanier de l'Union européenne.
Alors, il va se passer quoi ?
Donc, pour les marchandises, aujourd'hui, c'est comme si c'était du marché intérieur. À partir de demain, il y aura des formalités douanières supplémentaires.
Il y aura des files de camions, à quel endroit ?
Notre métier, c'est d'anticiper. Oui. Le ministre Gérald Darmanin l'a dit ce matin, nous irons dans quelques semaines faire le tour des ports de la façade Manche-Mer du Nord pour nous assurer que tout est prêt. Nous avons déjà prévu des recrutements supplémentaires pour nous assurer que tout sera prêt pour faire en sorte que le commerce ait le moins à pâtir de cette nouvelle frontière.
Autre question problématique, autre frontière cette fois entre les États-Unis et l'Europe, hein, la guerre commerciale voulue par Donald Trump. Donc, comment est-ce que vous vous préparez aussi à taxer Cranberries, Harley-Davidson, Gin, Bourbon par exemple?
Ça sera une décision de l'Europe. Hein. Tout ce que nous faisons est européen, comme je le disais tout à l'heure. Si l'Europe décide de taxer telle ou telle marchandise, nous avons un énorme catalogue de marchandises avec des codes très précis. Tout ceci n'est pas fait à la main, est fait dans des algorithmes informatiques. Et nous serons taxés, si c'était toutefois la décision des autorités européennes, nous serons taxés ces produits.
Vous, le président de la Fédération des industries mécaniques, comment vous voyez cette guerre commerciale qui se profile? Bon, rien n'est encore entériné.
Oui, c'est évidemment quelque chose qui va dans le mauvais sens, parce que la prospérité de nos économies, elle est très liée aux échanges et les chaînes de valeur sont très intégrées. Donc, ce serait vraiment une régression. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas être naïf. Dans la mondialisation, il y a des gens qui ne respectent pas les règles. Et donc, on a une politique commerciale et des douanes qui sachent aussi parfois prendre des mesures difficiles pour rappeler un petit peu les règles du jeu à certains de nos partenaires commerciaux. Ça semble naturel. J'ai toujours souvenir des Chinois qui avaient bloqué notamment des livraisons d'eau d'Evian parce qu'elles n'étaient pas conformes à leurs normes sanitaires. C'est quelque chose qui était un geste politique. Et je crois que parfois, il faut savoir le faire aussi sur les importations, montrer que le libre-échange, ce n'est pas forcément le laisser-faire.
Donald Trump qui affirme que les biens américains sont frappés de droits de douane européens inéquitables. Vrai, faux ou pas ? Vous, le patron de la douane française ?
Il y a un paradoxe statistique que vous avez peut-être lu dans nos chiffres. Nous, les Européens, nous pensons que nous sommes en déficit commercial avec les États-Unis. Et les États-Unis pensent totalement l'inverse. La vérité est probablement quelque part entre les deux.
Emmanuel ?
Oui, c'est ce qu'on appelle les trous noirs du commerce extérieur. C'est-à-dire que si vous accumulez, en fait, tous les soldes extérieurs de tous les pays du monde, la rationalité voudrait qu'on soit à zéro et en fait, non, on n'est pas, à zéro.
Merci à tous. La douane, une arme pour la compétitivité. Oui, c'est ce que vous nous avez expliqué. Rodolphe Gintz, directeur général de la douane, avec nous ce soir sur le plateau des décodeurs de l'écho. Un grand merci au roi des scoops sur BFM Business, Mathieu Pecheverti, qui est grand reporter qu'on trouve dans tous les journaux le matin, notamment aux côtés de Stéphane Soumier dans Good Morning Business. Merci Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. Et puis Bruno Grandjean, président de la Fédération des industries mécaniques, membre du métier à la tête de son entreprise. Redex, c'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient évidemment très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.